Corde 2022, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons alors donc à avancer dans ce 8e centenaire. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais enfin, le temps tourne. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un 8e centenaire qui n'est pas exactement celui de Corde, mais qui a quand même quelque chose à voir avec Corde. Vous en souvenez, au mois de décembre, on avait parlé dans une émission sur le 8e centenaire de la sortie de l'horloge, et qui avait bouleversé pas mal de choses en changeant l'utilisation des cloches, etc., etc. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre invention au sens large du mot, de l'époque de Raymond VII, c'est celle du papier. Le papier, eh oui. Tout le monde sait qu'il a été inventé en Chine, bien sûr, comme beaucoup d'autres choses, et puis qu'il est venu petit à petit au cours des siècles ou au cours des millénaires, à travers l'Extrême-Orient, la Perse et le monde arabe, il est venu jusque chez nous. Et il est arrivé ici, en Occitanie, à la fois d'un côté par la Sicile, qui, vous savez, était très liée avec le monde arabo-musulman de l'Afrique du Nord, et de l'autre côté, par l'autre côté de la Méditerranée, par l'Espagne, en remontant donc vers l'Occitanie. Et donc, c'est arrivé chez nous, c'est arrivé ici, juste à l'époque de la fondation de Corde. À la fin du 12e, début du 13e siècle. Donc, ça permet quand même d'étoffer un peu cette fondation de Corde, cette époque, etc. Parce que, on va quand même avoir un peu des images. Et l'invention du papier, enfin l'arrivée du papier dans le monde, a été quelque chose d'extrêmement important au point de vue communication et donc au point de vue construction du monde. Alors je voudrais souligner quelques aspects, quelques traits du XIIIe siècle pour montrer le changement qui s'est passé à cette époque-là. Bon, on sait que c'était les parchemins qui servaient à faire à écrire des chartes, etc., etc. Auparavant, au temps des Romains et avant, il y avait eu le papyrus. Mais le papyrus avait été oublié, en quelque sorte. Il avait été supplanté au temps de Charlemagne, un peu avant, par les parchemins. Les parchemins, c'est-à-dire ces éléments pour écrire faits avec des peaux. Alors des peaux, surtout des peaux de moutons, des peaux de brebis, d'agneaux. L'agneau, c'était le top des tops, du veau aussi, enfin tout ce qui pouvait permettre d'avoir une surface plane. Il y avait aussi la cire des abeilles, mais ça c'est un autre problème. Et donc on utilisait beaucoup les parchemins. Il faut se rendre compte que ce monde des parchemins, c'est pas simplement comme une feuille de papier blanche qu'on a devant nous. C'est tout un monde qui est par derrière et qui est très diversifié. Au point de vue de la production, par exemple, il faut se rendre compte qu'il y a des métiers très différents les uns des autres pour préparer. Tuer le veau ou le mouton pour enlever la peau, préparer la peau, la rendre lisse, utile, etc. Donc il y avait des tas de métiers qui s'occupaient de ça. Des techniques évidemment aussi différentes, même aujourd'hui, ceux qui travaillent sur les parchemins savent qu'on ne fait pas un parchemin n'importe comment, ni avec n'importe quoi. Et puis le commerce, parce que comme aujourd'hui, de même qu'on a des produits de luxe, on a des produits de première nécessité, en quelque sorte, beaucoup moins chers, etc. Il y avait, vous voyez, tout ce monde-là. Et puis dans l'utilisation, pas seulement dans la production, mais dans l'utilisation même des parchemins, il y avait différentes sortes, et en particulier, il y avait les grands spécialistes de l'écriture sur parchemin qui travaillaient dans le haut de gamme. C'est-à-dire, par exemple, c'est eux qui faisaient des parchemins pour les psautiers, quand un roi, Blanche de Castille par exemple, ou d'autres, avaient besoin ou voulaient, ou on voulait leur offrir quelque chose d'important à un évêque, au pape, etc., un psautier, ou bien par exemple des livres d'heures. Vous savez que toutes les 2 ou 3 heures l'église faisait des prières, donc il fallait des livres qu'on ait à portée de main, et donc on faisait ça avec de la très belle écriture et sur du parchemin de haut niveau, puisque on va pas utiliser un parchemin qu'on va donner à son copain ou à son ou à un ami, vous voyez, et puis le même parchemin qu'on va envoyer au roi de France, c'est évident, ou au comte de Toulouse. Donc il y avait des spécialistes qui écrivaient plus ou moins bien, plus ou moins finement, plus ou moins vite aussi, voilà. Et puis il y avait les scribes ordinaires comme nous, les secrétaires, et qui écrivaient bon ben les chartes ordinaires entre un seigneur et un paysan du coin, entre 2 commerçants, ou bien des lettres diplomatiques, mais pas forcément de haut niveau. Vous voyez, donc dans l'utilisation aussi, il y avait toute une gamme de personnel très différente. Et il faut savoir que là-dedans, il y a un point commun au XIIIe siècle, et c'est ça qui va changer, il faut le montrer, voir que c'est bien important, c'est que tout ça, c'est au pouvoir de l'Église. C'est l'Église qui, comme les cloches, décide quels sont les parchemins qu'on va utiliser, pourquoi, comment, etc. Et pourquoi ? Parce que tout ce qui est écrit doit être au service de la parole de Dieu. On a toujours ce problème, la parole de l'Église, c'est la parole de Dieu, et il faut que ça devienne petit à petit la parole des hommes. Avant de continuer, on va s'arrêter une minute.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
La samba se pasea con la batea,
lando,
samba malato,
lando,
samba malato,
lando,
samba malato,
lando, bailando se menea pa que la vea,
lando,
samba malato.
Colorado.
Michel Bonnet. Nous continuons à découvrir cette particularité du XIIIe siècle qui est d'être le siècle de l'invention ou de l'arrivée en Occitanie et en France, disons, du papier. Et nous faisions le point sur les parchemins. Il faut se rendre compte que ces parchemins, vraiment, c'était entre les mains de l'Église. C'était un enjeu de pouvoir, en quelque sorte, puisque à l'époque, la seule parole importante, c'était la parole de Dieu, et l'Église estimait qu'elle était la seule à pouvoir dire la parole de Dieu. Et donc, elle était la seule à pouvoir mettre par écrit cette parole de Dieu que l'on avait à travers la Bible. Or, la Bible, faut bien se rendre compte que à cette époque-là, il n'y avait pas une version officielle de la Bible. Il y avait pas mal de traductions qui avaient été faites depuis le grec, depuis l'hébreu, etc., etc. Et c'était un peu mouvant. Et c'est un peu avant notre époque. Donc Saint Jérôme venait de faire une traduction qui tendait à être un peu officiel, qui était très employé parce que très utile dans un langage connu, en latin bien sûr, et il n'y a pas d'autre langue à l'époque. Mais au fur et à mesure que des intellectuels, des universitaires commençaient à étudier la question, ils trouvaient que cette traduction n'était pas très bonne. Et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé à une nouvelle traduction de la Bible, pour ceux qui sont un peu au courant, la traduction latine qu'on appelle la Vulgate, c'est-à-dire Vulgate, vulgaire, vous voyez, c'est envoyé pour tout le monde, lisible par tout le monde, facile à lire. Or, donc ça montre que la diffusion de la Bible était un enjeu qui commençait à être important juste à ce moment-là. Et par exemple, bon, on le sait, tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu au Qatar et à l'histoire des hérétiques en Occitanie à cette époque-là savent combien c'était interdit au Qatar et ça pouvait leur coûter cher d'avoir un morceau de texte. Et ils voulaient, les Qatars, essayer de traduire en occitan des morceaux de Bible, mais ça a été très très difficile. Et au fur et à mesure du XIIIe siècle, donc au fur et à mesure du développement de cordes, disons, même si c'est pas directement lié, on a vu arriver des Bibles de poche. Des petites Bibles qui n'étaient pas imprimées, bien sûr, puisque ça n'existait pas encore, mais écrites sur parchemin, avec des peaux extrêmement fines, des peaux d'embryon, vous voyez, des peaux de fœtus, donc très, très, très fines et très, très petites, et qui permettaient d'avoir une Bible à usage personnel. Et il y a eu une production énorme à ce moment-là pour donner une idée entre, disons, les 50 premières années de la vie de Corde, hein, vous voyez, 1220, 30, 40, etc. On compte que on a eu à ce moment-là une production énorme de Bibles de poche, et quand on fait le bilan en étudiant combien il faut, en comptant qu'il faut à peu près 25 pots de bestioles pour faire un parchemin comportant toute la Bible, on se rend compte que on était sur un marché de plus de 30 000 pots de bêtes. 30 000 moutons, hein, enfin moutons ou agneaux ou autres. Donc, vous voyez tout le travail que ça représente, la masse d'heures de travail que ça représente pour ne serait-ce que pour transformer ces peaux en parchemin. Et donc, vous voyez que le problème du parchemin était quelque chose qui touchait toute la société, qui touchait le pouvoir dans la société, le pouvoir politique, mais aussi évidemment le pouvoir économique. Et par derrière, eh ben évidemment, il y avait toutes ces luttes des différentes instances comme aujourd'hui pour prendre le pouvoir. Or, justement, à ce moment-là, au XIIIe siècle, on se retrouve avec une montée de, je disais tout à l'heure, soit par le sud de l'Italie à travers la Sicile. Vous vous rappelez que la Sicile était très très liée avec le monde musulman, bien sûr, mais également à travers l'Afrique du Nord et le sud de l'Espagne, l'Andalousie et tout le monde musulman qui était en guerre, ce qui veut dire qu'il y avait des prisonniers et des esclaves selon les moments de victoire ou de défaite. Et dans ces prisonniers, ces esclaves, il y avait des gars qui utilisaient du papier pour prendre des notes, pour écrire quelque chose, etc. Et du coup, ils ont montré comment, ils nous ont enseigné, à ce moment-là, comment on pouvait fabriquer du papier, etc. Et il y a eu de suite une diffusion très rapide. On en a un signe, c'est pas du, je dirais en quelque sorte, de l'imagination ou du roman. On a le premier livre qu'on a fait en papier relié, c'est un registre de notaires. Et les notaires, c'est du sérieux. Habituellement, c'est pas du roman, etc. Et les notaires se sont mis à utiliser le papier au lieu du parchemin pour rassembler leur charte, leur contrat, etc. Et on a le plus ancien, date de 1248, et qui est de Amalric, qui est un notaire de Marseille. Or, vous savez que Marseille, en 1229, vous l'avez peut-être oublié, mais Raymond VII, quand il est après Paris, est parti de suite à Marseille avec une armée pour aider les Marseillais à se défendre dans les luttes qu'il y avait entre l'évêque, les comtes et tout le reste. Donc vous voyez, c'est juste à l'époque où Raymond VII est à Marseille, déjà les notaires utilisent de façon sérieuse le papier pour garder leurs documents. Et pourquoi ça? La raison principale, c'est que le papier, on ne peut pas le trafiquer comme on peut trafiquer les pots. Le papier, si vous grattez la feuille de papier, vous faites un trou, ou bien vous laissez des traces sur le papier. On n'avait pas les produits chimiques qu'on a aujourd'hui, évidemment, à l'époque. Tandis que le parchemin, on le grattait. On grattait, on changeait la date, on changeait un mot, etc. Et c'est pour ça que ça posait un très gros problème. Et là, pour tout ce qui touchait notamment au commerce, et donc aux enjeux financiers, comme d'habitude, le papier est devenu un instrument particulièrement fiable parce qu'on ne pouvait pas le falsifier. Mais on a un signe, évidemment, une chose, c'est que le papier est devenu extrêmement cher au moment de la fondation de Cordes. Et il faut savoir qu'une feuille de papier coûtait 12 fois plus cher que la même feuille en parchemin. Vous voyez un peu la différence de prix de 1 à 12. Et ça s'est diffusé tellement que, grosso modo, à la mort de Raymond VII, vous voyez, à peine 50 ans plus tard, ce n'était que 4 fois plus cher. Ça, c'est pas du baratin, c'est des écus, des deniers, etc. Ça compte, vous voyez. Donc ça montre la diffusion extrêmement rapide, très rapide, du papier pour produire tout ce qui pouvait être nécessaire. Et le deuxième point qui fait que le papier était intéressant parce qu'on pouvait pas le falsifier, c'est que il pouvait se diffuser beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement parce qu'on pouvait faire du papier beaucoup plus vite que du parchemin et qui avait, c'est tout un autre système qui se met en place. Et donc on voit apparaître avec le papier ce problème numéro un de toutes les époques, qui est la relation entre la parole individuelle et la masse, la parole communautaire, si on peut dire. Enfin, comment diffuser une parole individuelle jusqu'à ce qu'elle envahisse tout le champ social? C'est encore un problème d'aujourd'hui, évidemment. Mais déjà, à cette époque-là, c'était une question extrêmement importante. On va s'arrêter une minute.
CFM Cordes. Trois lettres, un esprit, le rock.
Boop boop boop.
Michel Bonnet. Nous continuons à réfléchir sur cette arrivée du papier il y a 800 ans dans notre cher pays. Et nous parlions donc de cette ambiance, si on peut dire, cette problématique, pour employer un grand mot, du rapport entre la personne individuelle, c'est-à-dire qui écrit, celui qui tient le parchemin ou le papier avec sa plume, et puis la masse, la diffusion au plus grand nombre, puisque c'est une façon de prendre le pouvoir sur les gens que de leur dire ou que de leur laisser par écrit un papier, une parole écrite. Et une chose dont il faut se rendre compte de l'enjeu que ça représente, c'est que on n'écrit pas de la même façon sur un parchemin et sur une feuille de papier. De même que nous, jusqu'à un certain point, aujourd'hui, sur une feuille de papier, on écrit facilement avec un feutre ou un stylo à billes. Mais si on nous demandait d'utiliser les plumes genre sergent-major qu'on avait que moi j'avais à l'école il y a 50 ans, ou même plus que ça, vous voyez, ça devient très difficile. On ne sait plus utiliser un porte-plume, difficilement. Et c'est la même chose. Il faut se rendre compte que le scribe, quand il se met à écrire sur un parchemin, il tient la plume d'oie ou le morceau de bambou, etc. D'une certaine façon, ses doigts n'appuient pas. C'est pas les mêmes doigts qui travaillent. On n'appuie pas de la même façon sur la plume. La fatigue est différente. Et donc, il y a différents scribes qui apparaissent. Certains sont doués, d'autres moins, certains en font beaucoup, d'autres travaillent beaucoup moins, etc. Il y a donc une transformation même des individus, dans la mesure où tout le monde s'en sert, enfin où beaucoup de gens vont pouvoir s'en servir, ça change. Regardez aujourd'hui, je suis prêt à parier qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont beaucoup plus à l'aise pour écrire en tapant sur un clavier qu'en prenant un stylo pour écrire sur une feuille de papier. Non pas que c'est difficile, mais c'est pas pareil, on va plus vite, on est plus à l'aise, etc. Et petit à petit, on a du mal à faire une belle écriture, vous voyez, ça change. L'individu. Mais surtout, ça change au point de vue social, au point de vue vie sociale, parce qu'il y a une élite qui se met en place des moines en particulier, dans les monastères, et il y a des différences d'un monastère à l'autre. Prenez par exemple un des grands foyers d'écriture et d'enluminure au XIIIe siècle, c'est Albi. Et oui, c'est Albi. On n'a pas fini de faire le tour des richesses qu'on a en Occitanie au Moyen-Âge, vous voyez. Mais une des grandes écoles d'enluminure de l'époque, un des grands centres de diffusion donc des enluminures, c'était la cathédrale d'Albi. Pas Sainte-Cécile, puisqu'elle n'était pas encore construite, mais la précédente, au même endroit, à peu près, quoi. Donc, vous voyez, on avait là des moines, ça allait même jusqu'à un certain point où certains moines travaillaient le matin en écriture fine, et puis au fur et à mesure que la journée passait, l'après-midi, ils mettaient à faire les lettres majuscules qui étaient beaucoup moins difficiles à faire, beaucoup moins précises, différentes, etc. Et il y avait deux catégories de moines qui se mettaient en place. Je parle des monastères, mais dans toutes les écoles, c'était pareil. C'est pour ça qu'on se trouve aujourd'hui avec des écritures. Vous allez aux archives à Albi, aux archives départementales d'Albi, vous pouvez avoir des manuscrits du XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, en écriture très très fine, qu'on appelle les carolines, et vous voyez, et puis d'autres qui sont en grosse écriture, beaucoup plus, massive. Hein, vous voyez. Donc, je disais que le monde se diversifie. Il y a un élitisme qui se met en route avec des livres de plus en plus gros, de plus en plus nombreux, de plus en plus riches, avec qui deviennent des œuvres d'art. On pense au psautier de de Blanche de Castille, par exemple, ou bien, enfin, d'autres que vous connaissez, quoi. Hein. Mais le papier prend de plus en plus de place. On en a un signe, c'est que, par exemple, lorsque Alphonse de Poitiers qui remplace Raymond VII, hein, donc c'est toujours la même, on ne bouge pas de corde, hein, et lorsque Alphonse de Poitiers rassemble les chartes qu'il estime devoir, auxquelles il devoir mettre son sceau, enfin, il dit ça, c'est les chartes de Raymond VII, mais que j'appuie, eh bien il les fait pas parchemin, il les met sur papier. Il est passé, vous voyez, en quelques années, au cours de la vie adulte de Raymond VII, on est passé au papier d'une façon générale. Et donc, on se retrouve avec un tourbillon à cette époque-là, parce que les gens se mettent à réfléchir, à discuter. Qu'est-ce que c'est cet afflux tout d'un coup? L'Église, par exemple, interdit au début de traduire, de copier sur du papier les traductions de la Bible. Les traductions, il faut les mettre pour respecter la parole de Dieu. Ça serait une injure à Dieu et à l'Église et tout le reste que d'écrire sur du papier. Et on est, non, il faut un matériau noble et il faut que ce soit sur du parchemin. Vous voyez, c'est tout un monde qui se met en place et qui provoque bien des difficultés, bien des choses pour, vous voyez, pour se rendre compte de ce brouhaha que représente l'arrivée du papier. Moi, j'ai une chose qui me plaît beaucoup. C'est une poésie de Serge Gainsbourg. Gainsbourg, bon, c'est pas un troubadour médiéval, hein, c'est un gars de notre époque. Vous le connaissez tous aussi bien que moi. Eh bien, il a fait une poésie qui est chantée maintenant, que tout le monde connaît. Vous la connaissez peut-être par cœur, mais enfin, bon, les petits papiers. Vous voyez, si on prend cette poésie, comme avec tous les poètes, avec tous les artistes, bien sûr, il faut prendre le temps de savourer, de se laisser prendre par cette approche, mais on découvre à quel point le papier représente un univers extrêmement riche, extrêmement polyvalent, changeant, avec selon les personnes qui parlent, selon les personnes qui écoutent, selon le moment où on le dit, selon le lieu où on diffuse le papier. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Comme c'est pas très long, je vous propose qu'on fasse une pause en écoutant Les Petits Papiers de Serge Gainsbourg.
Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours. Et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche papier tu mouches et moitié fou. C'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie. Où l'on en meurt papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer.
Corde 2022. Donc, c'était Les Petits Papiers de Serge Gainsbourg. Et ça, pour nous rappeler tout ce qui peut se cacher derrière l'arrivée d'une feuille de papier. Vous voyez, et ça c'est extrêmement important parce que c'est un problème que l'humanité a depuis pratiquement les débuts de l'humanité, puisqu'on s'aperçoit que les premiers endroits pour écrire, c'était des blocs de pierre, c'était les parois des cavernes paléolithiques, vous voyez. Et puis, on s'est retrouvé, l'être humain a besoin de passer de sa tête dans la parole, quand il a une idée, il veut la mettre en parole, et puis dans la deuxième étape, on veut passer de la parole à quelque chose qui reste, parce que la parole bouge, hein, elle disparaît, elle peut être transformée facilement, et donc on va se mettre à l'écrire. Et puis l'histoire de l'humanité, elle continue avec l'histoire des supports de la parole que l'on met par écrit. Et bon, il y aura les roseaux, la cire, les papyrus, les parchemins, etc. Oui, on pourrait passer des heures et des heures à faire l'histoire de ce développement-là. Mais on se retrouve avec une sorte, à chaque époque, quand un nouvel instrument d'écriture apparaît, un nouveau support d'écriture apparaît, on se retrouve avec une sorte de révolution, un brouhaha énorme qui change à la fois les individus, ceux qui parlent, ceux qui écrivent, ceux qui écoutent, ceux qui lisent, et puis les sociétés qui utilisent plus ou moins donc ces supports. Et on sait que quelques temps après l'arrivée du papier, bon, ça se passe pas en 8 jours, bien sûr, hein, mais en 1448, c'est Gutenberg qui va faire passer le papier à l'imprimerie. Et donc un changement, un progrès énorme, énorme quand on voit ça. Et donc ce rapport de la parole à l'écrit va à partir de 1200 et quelques, donc à partir de l'époque de la fondation de Cordes, pendant 800 ans, il va devenir quelque chose de très important, qui va se développer, et pour arriver finalement à un changement énorme, qui est l'arrivée des Lumières, c'est-à-dire que on n'écoute plus la parole de Dieu, et on écoute la parole de Dieu, et on réfléchit à ça, et finalement, 1789, avec la suppression de l'hégémonie de l'Église sur le pouvoir politique. Donc vous voyez, c'est un gros changement de société qui se met en place à l'époque de la fondation de Cordes. Mais on retrouve ça aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on est de nouveau en face d'un problème énorme, énorme, qui se cache sous le papier écrit ou imprimé. Déjà, on est obligé de penser en termes de planète. À l'époque de Raymond VII, on écrivait en alphabet latin. Ça posait pas de gros problèmes. Enfin, disons que ce soit de l'allemand, de l'occitan, de l'anglais ou de l'espagnol, du castillan, etc. Bon, là maintenant, il faut passer au niveau imprimerie, bien sûr. Hein, il faut passer avec toutes les langues du monde. Et vous voyez donc le travail depuis déjà maintenant quelques décennies, bien sûr, mais tout le travail qui se passe pour fixer ce qu'on appelle un Unicode, quelque chose qui permette d'imprimer n'importe quelle lettre de n'importe quelle langue. Et vous voyez, et ça, c'est pas du tout évident. Et maintenant, en plus, on se retrouve avec la numérisation. Alors, vous voyez de suite la différence que ça représente, puisque un SMS, trois coups sur un clavier et le message s'en va. Alors que auparavant, bon, il fallait préparer du papier, aller à la poste, etc., etc. Mais en même temps, vous voyez comment cette diffusion phénoménale que l'on sent, particulièrement en ce moment avec les campagnes présidentielles, les campagnes électorales, où les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie pour envoyer n'importe quel genre de message, et chaque politicien, chaque homme politique tient à avoir sa place dans ce monde des réseaux. Vous voyez, et tout ça pour diffuser sa parole le plus vite possible et le plus loin possible. Et on arrive à avoir des inventions énormes qui posent des gros problèmes. Je Prenez par exemple ce qu'on appelle le skywriting, envoyer des messages dans l'atmosphère et qu'on puisse les lire depuis le sol. Si bien que tout d'un coup, dans le ciel, on va pouvoir lire une publicité qui va toucher des centaines et des centaines de... Ouais, des dizaines de milliers de personnes sur des centaines de kilomètres. Vous voyez tous les problèmes que ça pose, les problèmes que ça pose déjà pour des droits d'auteur, parce que il y a toujours de l'argent par derrière. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Donc c'est pas seulement un développement technique, c'est que ça pose des sérieuses questions sur le rapport entre l'individu et la société dans son ensemble. Et ça crée du stress. Ça crée des problèmes, ça crée des activités, bien sûr, et ça crée évidemment des grosses bagarres. Et on est toujours dans ce grand rêve que l'on sent venir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez ce genre de problème, mais où l'homme voudrait arriver à ce que sa pensée, il suffit qu'il pense quelque chose pour que ça tombe écrit définitivement sur un papier. Alors on arrive petit à petit maintenant à ce que... sans passer par un support même informatique ou une plume ou un feutre, etc., on arrive à écrire directement avec la voix. Hein, l'informatique nous permet ça. C'est pas encore 100% au point, mais ça avance. Donc vous voyez, ça fait des sacrées différences dans la vie entre ceux qui peuvent utiliser ça et ceux qui peuvent pas. Moi, je vous dirais personnellement, j'écris pas mal, donc j'ai essayé de gagner du temps en enregistrant ma voix et de façon à ce qu'elle soit directement numérisée. Je vous dirais que ça demande tellement de corrections, etc., que j'ai abandonné. Mais il y en a à qui ça sert énormément, bien sûr. Enfin, je veux dire, voilà, vous voyez, ce huitième centenaire, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas seulement de se rappeler Corde il y a 800 ans, c'est pas seulement de se rappeler une ville, etc., c'est se rappeler un siècle, une ambiance, toute une vie de société avec différents aspects. Et donc, ce huitième centenaire, il faut lui donner de l'ampleur parce que c'est un point de départ. Tous ces grands problèmes qu'il y a eu il y a 800 ans et qui se sont petit à petit réglés jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ils redémarrent avec une nouvelle période, avec la place. Imaginez, maintenant, il va falloir se mettre à étudier le langage des arbres, le langage des fleurs, le langage des animaux. Vous voyez passer une souris dans votre cuisine. Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens me dire? Comment je réagis avec elle? Et les arbres, etc. Moi, je lisais récemment un livre où un gars étudie comment, avec des champignons, les arbres entre eux s'envoient des messages. Faut le faire, hein. Donc, on n'en est pas encore là. Mais, je veux dire, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Et donc, exactement comme au XIIIe siècle, il faut pas en avoir peur. Faut pas non plus se bagarrer complètement là-dessus. Faut se dire, on commence dans un monde nouveau. Allons-y. On arrivera à quelque chose. Dans 800 ans, on sera pas là pour le vérifier. Mais ça fait rien. Bonne continuation, c'était Corde 2022 avec Michel Bonnet.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.